Bonjour Amélie Chaudet.
Bonjour Anne Lorchouin.
Alors c'est vous qui êtes aux manettes des enjeux internationaux toute cette semaine de Noël. Ce matin, vous revenez sur le désengagement des troupes américaines en Syrie.
Et oui, reprise du flambeau des mains de Xavier Martinet qui analysait vendredi dernier les difficultés à venir de la présidence américaine. Alors nous, on parle ce matin d'une autre décision du président Donald Trump qui risque de contribuer là aussi à son isolement. Et on en parle avec Adèle Bakawan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargé de cours à l'université d'Evry, chercheur et directeur général du Centre de sociologie du Kurdistan. Alors, quelques mots pour planter le décor avant toute chose. Mercredi soir, donc, le président des États-Unis, Donald Trump, annonce dans un tweet, comme à son habitude, un retrait important de ses troupes en Syrie. Avec ces quelques mots, « Nous avons vaincu l'État islamique en Syrie, la seule raison de notre présence là-bas pendant mon mandat. » Nous pourrons revenir sur cette phrase au cours de cet entretien. Quoi qu'il en soit, ses alliés de la coalition anti-État islamique n'est pas du tout d'accord sur la fin proclamée de Daesh, ni le Pentagone. Donald Trump a pris cette décision tout seul, sans soutien ni concertation au préalable. Et donc 2000 soldats américains quitteront le sol syrien d'ici à une centaine de jours, peut-être moins. Les États-Unis qui laissent un vide dans cette coalition, mais aussi sur un échiquier complexe où sont positionnés Damas, soutenu par Moscou et Téhéran d'un côté, et de l'autre une coalition internationale destinée à combattre le groupe État islamique en Syrie et en Irak, coalition dans laquelle on pouvait donc compter jusqu'alors les États-Unis, dans laquelle on peut toujours compter la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, des pays de la péninsule arabique, des combattants kurdes, de la milice YPG, unité de protection du peuple proche du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Il y a aussi la Turquie dans cette coalition, mais avec des intérêts différents, puisqu'Ankara tient aussi à empêcher une progression des combattants kurdes dans la région, même s'ils ont a priori un ennemi commun, qui est Daesh. C'est une version ultra simplifiée de l'échiquier. Alors au lendemain des déclarations de Donald Trump sur le retrait de ses troupes, la presse turque pro-gouvernementale s'est emballé, pleure, YPG pleure, a titré un édito du quotidien Sabah, en s'adressant donc à la milice groupe armé kurde en Syrie, en s'adressant donc à ce groupe armé. L'autre journal pro-Erdogan, Milliyet, qualifie la décision de Donald Trump de trop belle pour être vraie, car en effet, il y a encore une semaine, le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, menaçait les forces kurdes en Syrie d'une intervention militaire. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer aujourd'hui, Adèle Bakawan, cette décision du président Donald Trump comme un feu vert donné à Recep Tayyip Erdogan pour une invasion de la frontière turco-syrienne, base des combattants kurdes?
En tout cas, comme un feu vert, on ne peut pas le confirmer, mais confier la gestion de Daesh en Syrie à Recep Tayyip Erdogan. Jusqu'à il y a quelques semaines, Erdogan a été mis en scène, identifié par une bonne partie de l'administration américaine comme un acteur, comme celui qui facilite la mise en scène, le renforcement, le soutien politique, mais aussi militaire et financier à cette organisation terroriste. Incroyable, au bout d'une semaine, Erdogan devient l'acteur à qui on confie la gestion de Daesh. Daesh est globalement fini pour Donald Trump. Il reste quelques poches, la liquidation de ces poches, le nettoyage de ce territoire, même pas seulement en Syrie, au Moyen-Orient, désormais est confié à Erdogan.
Donc c'est quand même une décision pour le moins surprenante, surtout quand on pense aux relations diplomatiques qui ont uni les États-Unis, enfin qui ont justement divisé la Turquie et les États-Unis ces derniers mois. Adèle Bakawan.
Alors,
il s'agit dans quelque sorte d'une clé donnée à Erdogan pour gérer la situation, alors qu'il y a quelques mois c'était quand même la guerre ouverte.
Absolument, absolument, une clé, mais une clé irrationnelle. Cette décision de Donald Trump, il y a un consensus international pour la première fois, un consensus international et même à l'intérieur, comme vous l'avez si bien dit, des États-Unis d'Amérique, que cette décision est totalement irrationnel. Daesh n'est pas fini, comme Emmanuel Macron, le président de la République, l'a confirmé. On sait très bien, selon le dernier rapport du Conseil de sécurité international, il y a à ce jour entre 20 et 30 000 combattants de Daesh entre la Syrie et l'Irak. La menace de cette organisation persiste. À tout moment, l'organisation peut se redéployer. Et donc, cette décision de Donald Trump de tout d'abord annoncé, comme il l'a annoncé Haïdar Al-Abadi il y a un an, en novembre de l'année dernière, la victoire contre Daesh, l'ancien premier ministre, c'était totalement irrationnel. Aujourd'hui, cette décision de Donald Trump est totalement irrationnelle et contre la communauté internationale, contre les intérêts des États-Unis, contre les intérêts de l'Europe et tout simplement contre les intérêts de la communauté internationale. Et c'est pourquoi, c'est aujourd'hui, malheureusement, la gestion de ce dossier confié à Erdogan est une erreur géostratégique.
Surtout que lorsqu'on lit justement cette presse turque pro-gouvernement, il est surtout question de se réjouir d'une possibilité d'envahir le Kurdistan syrien et de combattre les combattants kurdes en Syrie et pas vraiment de prendre en main la lutte contre Daesh. C'est pas vraiment ce qui est annoncé et mis en avant.
Oui, absolument. Absolument. Ce qui est paradoxal, c'est que Donald Trump est... Moi, je pense que c'est une erreur de parler de l'administration américaine. Ce n'est pas l'administration américaine, ce n'est pas la politique.
Qui est en désaccord avec
Donald Trump. Absolument, absolument. C'est la politique d'un acteur, du président des États-Unis d'Amérique, contre sa propre... Alors, lui, il met en scène la lutte de la Turquie contre l'organisation de l'État islamique. Or, en Turquie, ce qui est mis en avance, c'est la lutte contre les Kurdes de Turquie, contre ce territoire protégé par les Kurdes de Turquie, autrement dit par le YPG, considéré comme une organisation terroriste. La priorité pour la Turquie n'est pas l'organisation de l'État islamique. La priorité, c'est comment contrôler le nord de la Syrie. Comment liquider ce projet politique qui a été mis en perspective par les Kurdes de la Syrie et qui est considéré comme une menace pour la sécurité nationale de la Turquie.
Et justement, compte tenu de cette configuration là qui se dessine depuis quelques jours, pour le moins surprenante, donc avec une décision américaine complètement sortie de nulle part et un président américain donc assez isolé sur ce coup-là, est-ce que la Turquie a intérêt à se précipiter sur la possibilité d'une offensive?
Écoutez, à Washington, vous avez un président totalement irrationnel. À Ankara aussi, vous avez un autre président totalement irrationnel avec des prises de décisions totalement irrationnelles. Mais ce qui compte pour les deux présidents, pour les deux acteurs, c'est la mise en scène. C'est l'aspect théâtral de ces décisions. Exactement. Aujourd'hui, Erdogan, nationalement, a besoin de cette mise en scène, comme l'acteur gagnant, comme l'acteur qui détient désormais les clés du Moyen-Orient et surtout de la Syrie, comme l'acteur qui est en mesure, objectivement parlant, à tout moment, attaquer ce territoire. Je pense qu'il n'y aura pas une opération demain ou après-demain ou dans les semaines à venir. La Turquie a besoin plus d'élaboration, plus de réflexion.
Et surtout,
la Turquie ne peut pas prendre une telle décision toute seule. Elle n'est pas le seul acteur en Syrie. Vous avez la Russie, vous avez l'Iran, vous avez le régime de Damas qui revient en grâce à ce jour dans la politique étrangère de la Turquie. Il y a des négociations dans les coulisses entre Ankara et Damas. Il faut prendre en compte tous les intérêts et les enjeux et les rapports de force de tous ces acteurs pour pouvoir prendre une décision et attaquer le nord de la Syrie.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Adel Bakawan, de la lutte contre Daesh. Alors, justement, les combattants kurdes syriens de l'YPG se sont illustrés par la reprise de Kobané, par celle de Raqqa. Donc, dans cette lutte contre le groupe État islamique en Syrie, ils ont quand même un passif plutôt intéressant pour le reste de la coalition internationale. Aujourd'hui, le retrait des États-Unis, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est une force dissuasive qui s'en va et qui donc permet à l'État islamique de se relever de ses cendres, tant qu'elles existent.
C'est une très bonne question. Au niveau des Kurdes, là, dans votre question, il y a deux sous-questions. La première qui concerne les Kurdes, la deuxième concerne l'organisation de l'État islamique. D'une manière très très synthétique, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les Kurdes n'ont que trois options. La première option, un accord avec Damas, le régime syrien, Bachar al-Assad. La deuxième option, un accord avec Recep Tayyip Erdogan, Ankara. Et la troisième option, la résistance, comme ils l'ont fait à Afrin.
Qui leur a coûté cher.
Exactement. Chaque option a ses propres conséquences dramatiques. La première option, en accord avec la Syrie, c'est-à-dire la fin politique. Je dis bien politique, la fin politique des Kurdes en Syrie. Parce que c'est le régime de Bachar al-Assad qui impose son agenda.
Un accord avec la Syrie, excusez-moi Adel Bakawan, je précise pour nos auditeurs, qui permettrait peut-être donc au Kurdistan irakien d'avoir une protection, du Kurdistan syrien, pardon, d'avoir une protection du régime pour empêcher une invasion turque.
Il n'y aura pas un Kurdistan syrien. C'est un accord avec la Syrie, avec Bachar al-Assad, c'est-à-dire la fin politique du Kurdistan syrien. Il n'y aura plus un territoire qu'on appellera le Kurdistan syrien. Justement, il y aura un territoire syrien et les choses s'arrêtent là. C'est pourquoi c'est la mort politique pour les Kurdes de Syrie, faire un accord, mettre en place un accord avec Bachar al-Assad. Un accord avec Ankara, c'est la fin politique des Kurdes en Turquie. Pourquoi ? Parce que dans cette option, le PKK doit renoncer à son combat politique militaire contre Ankara. Autrement dit, le PKK sacrifie son combat en Turquie pour sauver son projet politique en Syrie. Cela est peu probable.
Ça relève presque de la fiction à ce jour, un accord entre Ankara et le Kurdistan syrien.
Exactement. Et la troisième option, c'est la résistance, l'option la plus plausible, la plus probable. Autrement dit, résister jusqu'à la fin.
Mais la plus coûteuse, sans doute, humainement.
Absolument. Et est-ce que, comme vous avez dit dans votre question, est-ce que la coalition internationale, ce qui reste de la coalition internationale, comme l'Europe, comme les pays arabes, peuvent intervenir et jouer un rôle.
C'était l'objet de ma question suivante.
Voilà, exactement. Et jouer un rôle dans la pacification de cette tension entre les Kurdes de Syrie et le régime de Bachar al-Assad, entre les Kurdes de Syrie et la Turquie. Alors, au niveau de la volonté, il y a de la bonne volonté, il y a de l'ambition de la part de l'Europe et certains pays arabes, mais les moyens ne sont pas au rendez-vous.
Voilà, c'est-à-dire
les États-Unis
les
d'Amérique
a
été voilà et, la, et les États-Unis a été la, le seul acteur qui pouvait pacifier avant ce retrait la relation entre le Nord, le Kurdistan syrien, ce que la Turquie appelle le nord de la Syrie, et Ankara. Mais malheureusement, avant cette pacification, les États-Unis, Washington avaient ces moyens de pression à la fois sur les Kurdes et sur Ankara. Mais avant cette pacification, Donald Trump a pris l'autre option, se retirer et livrer les Kurdes. Alors, bourreau.
Encore une question sur la lutte contre Daesh, Adel Bakawan. Je rappelle que vous êtes sociologue franco-kurde et directeur du Centre de recherche sociologique au Kurdistan. Il sera difficile, dit Ilham Arman, négociatrice kurde avec Damas, de continuer à mener le combat contre Daesh parce que nous serons obligés, dit-elle, d'abandonner nos lignes de front vers Deir ez-Zor pour prendre position vers le nord sur la frontière avec la Turquie pour nous tenir prêts en cas d'attaque de l'armée turque. Personne dans cet échiquier, que ce soit Moscou, Téhéran ou Damas ou le reste de la coalition anti-État islamique, personne n'a intérêt à ce que les combattants kurdes se retrouvent seuls. Personne n'a intérêt à une résurgence du groupe État islamique en Syrie.
Alors, objectivement, personne n'a intérêt à ce retour en force de l'organisation de l'État islamique. Et pourtant, rationnellement, objectivement, les Kurdes n'ont pas d'autres moyens. Les Kurdes ne peuvent pas à la fois lancer un combat continuer ce combat contre l'organisation de l'État islamique à Deir ez-Zor, dans la province de Deir ez-Zor, en même temps défendre leur territoire contre la Turquie. Même si la Turquie n'a pas encore engagé sur le sol cette opération. Mais les Kurdes se voient dans l'obligation de se retirer pour protéger leurs frontières moi pour se préparer à cette offensive turque. Et donc, oui, bien évidemment, il y a le risque de retour de Daesh par excellence. Et je l'ai dit sur d'autres chaînes, surtout à France 24, aujourd'hui en Irak et en Syrie, il y a des conditions objectives. Il y avait des conditions objectives en 2013 et 2014, une dernière phrase, pour que l'organisation de l'État islamique apparaisse sur la scène. Aujourd'hui, ces conditions objectives, ils sont encore là. Et personnellement, je pense Daesh, oui, reviendra avec une force extraordinaire. Et ce qui est déjà le cas en Irak, hein, chaque jour, avec mon groupe de recherche, le nombre des attentats, de toutes les catégories d'attentats en Irak, augmente d'une manière considérable et incroyable.
C'est ce que disait d'ailleurs Ilan Goldenberg du think tank Center for a New American Security. Il disait, voilà, on répète les erreurs du passé parce que les forces américaines seront de toute façon, en quittant la Syrie maintenant, obligées de revenir à cause d'une résurgence du groupe État islamique. Mais concernant le présent, les forces kurdes peuvent-elles compter sur d'autres puissances de cette coalition anti-État islamique? Et je pense notamment aux pays arabes, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, et comment ces acteurs peuvent entrer en jeu? Est-ce qu'ils peuvent entrer en jeu?
Non, les Kurdes ne peuvent pas compter sur ces acteurs des pays du système régional, parce que la politique de ces pays du système régional est déterminée par la marge de manœuvre des États-Unis d'Amérique.
D'accord. Merci beaucoup Adel Bakawan. Donc je rappelle que vous êtes sociologue et directeur du Centre de Recherche Sociologique au Kurdistan. Quant à nous, on se retrouve demain à 6h40 pour d'autres enjeux internationaux en Europe. Cette fois, nous parlerons des doutes, des crises qui ont traversé l'Union européenne cette année, ainsi que des élections européennes qui se profilent au printemps 2019.